Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, le Tour de France a commencé ce week-end.
Oui.
Alors, je vous amène sur le mont Ventoux. C'est un mont mythique dans
ah oui,
le Tour de
absolument.
France.
C'est... Oui, alors, chaque année, je pense qu'on le fait. Hein?
Peut-être presque.
Presque, en tout cas.
Ça dépend des circuits qui sont choisis.
Oui.
Alors, je vous parle du mont Ventoux, le Ventoux de Gravel. Et de quel Gravel je vous parle? C'est un récit qui est présenté par Alain Gravel.
Ah, ça devrait être une enquête, probablement.
Peut-être. Dans le magazine Vélomag d'avril 2015. Alors maintenant, je deviens Alain Gravel.
Ah.
C'est en faisant du spinning que j'ai découvert le mont Ventoux. En fait, en voyant sur l'écran géant placé devant nous la fameuse ascension du Ventoux par Lance Armstrong accompagné de Marco Pantani en 2000. En regardant ces images, je me promettais d'aller moi aussi un jour grimper le Ventoux. Située près de la ville de Carpentras, la montagne s'impose d'elle-même. Elle trône seule au milieu de paysages naturels spectaculaires. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le géant de Provence. Le Ventoux est unique par le défi qu'il offre à qui veut dompter ses 21 km d'ascension sans un seul mètre de répit. Le pourcentage moyen de déclivité est d'environ 7,5 avec de longues sections à plus de 10 %.
Ce qui est considérable.
Le pourcentage de déclivité, c'est quoi ça?
Bien, par exemple, sur une pente de 10 % de déclivité, ça correspond à une élévation de 10 mètres sur une distance horizontale de 100 mètres.
Ah, OK.
Donc, plus le chiffre de pourcentage est élevé, plus l'effort pour grimper la côte est important.
C'est important.
OK? La première partie de la montée se passe dans une forêt dense de chênes où on a peine à respirer lorsqu'il fait chaud. La deuxième est dénudée et couverte de pierres. Quand le vent se lève, on gèle, sinon on crève de chaleur, les pierres chauffant la montagne comme un feu de foyer. Me voilà donc à Bédouin, au pied du Ventoux, pour ma première ascension. J'étais alors en tournage pour un reportage de l'émission Enjeu intitulé « Mourir du sport ». C'est qu'il y a des histoires à glaner sur les pentes du géant de Provence. D'entrée de jeu, le proprio de la boutique de Carpentras, qui me loue un vélo pas tout à fait récent, me met au défi. Si vous réussissez votre ascension, vous aurez droit à un maillot. Mon équipe va me filmer jusqu'au dernier kilomètre, histoire de faire découvrir aux téléspectateurs le cénotaphe à la mémoire du champion du monde Tom Simpson, qui est mort au sommet de la montagne lors du Tour de France de 1967 après avoir pris des amphétamines et bu du cognac. Drôle de mélange.
Pas un bon mélange.
Tristement, cette mort contribue à alimenter la légende du Mont Ventoux. Il y a trois villages de départ pour grimper la montagne, la montée la plus difficile étant par Bédouin. Donc, pas question pour moi de partir d'ailleurs. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Nous sommes fin avril, en bas, il fait beau et les terrasses sont pleines de touristes. Il fait 15 degrés, un temps parfait pour le défi que je me fixe. En oubliant que tout peut arriver sur le Ventoux. À vrai dire, je me fous un peu du tournage de la séquence au cénotaphe de Simpson. Tout ce qui m'intéresse cette journée-là, c'est de grimper, me battre, souffrir et arriver en haut avec le sentiment du devoir accompli. Au début, la pente est douce, mais assez rapidement, en entrant dans la forêt, de premiers gros pourcentages de 9 et 10 % me font peiner. En arrivant à mi-chemin, la frontière entre la forêt et la partie découverte de la montagne, une barrière nous bloque le passage. On vient de fermer la montagne puisqu'on craint de fortes rafales et de froides précipitations. Qu'à cela ne tienne, nous contournons l'obstacle et y allons quand même. Pluie froide, grêle, brouillard et vent glacial, le cocktail idéal pour la leçon de modestie qu'offre le Mont Ventoux à un baveux comme moi. Et en plus, l'inclinaison devient de plus en plus prononcée. C'est là qu'on comprend pourquoi les spectateurs qui suivent le Tour de France réussissent lors de certaines grandes ascensions à courir aussi vite que les cyclistes en les accompagnant. Après 1h40 d'efforts, j'arrive finalement en haut des 1912 mètres d'altitude de la montagne, épuisé et frigorifié, mais heureux comme un roi. Je garderai aussi comme souvenir de cette journée la descente folle du Ventoux, pendant laquelle je me suis trompé de chemin, me perdant alors que j'avais laissé mon portefeuille dans la camionnette de tournage. Pendant quelques heures, j'ai roulé seul, sans argent, sans eau ni nourriture, parcourant les paysages magnifiques des gorges de la Nesque, situé en bas de la montagne. C'était tellement beau que j'avais oublié qu'il fallait que je remette mon vélo de location.
Oui, mais tu as mentionné tout à l'heure que le proprio de la boutique lui avait promis un maillot aussi.
Effectivement.
Qu'est-ce qui est arrivé?
Alors, j'ai finalement retrouvé mon chemin. Je suis arrivé en fin d'après-midi à Carpentras, juste à temps pour rendre le vélo et me faire remettre le maillot promis par le propriétaire de la boutique, moyennant 80 euros.
Oh, c'est gentil, ça. C'est un beau cadeau.
Décidément, les pièges à touristes sont partout.
Oui, oui, oui.
Le Mont Ventoux m'a tellement fasciné que j'y suis retourné à deux reprises en vacances. Je garde surtout un souvenir impérissable d'une rencontre, cette fois en partant du village de Malocène. J'arrive dans les gros pourcentages vers le sommet et j'aperçois soudain derrière moi, au loin, un petit vieux. Ceux qui me connaissent, ils sauraient que c'est un pépère, en tout cas. Dans la soixantaine qui monte dans ma direction. Les gens qui me connaissent savent que je suis plus orgueilleux que bon grimpeur et que je suis prêt à agoniser pour ne pas me laisser dépasser. J'augmente donc ma cadence. Rien à faire. Il approche dangereusement. J'augmente le rythme, lui aussi, et il finit par me coiffer. Il ne m'aura pas. Je me cale dans sa roue. Il reste 5 kilomètres. Il finira bien par faiblir. Je roule ainsi pendant environ 1 kilomètre. Puis, sans avertissement, il se retourne. Me fusille du regard à la façon dont jadis Armstrong le faisait avec ses adversaires. J'entends soudain un clic et un autre. Non, c'est pas vrai. Il ajoute 2 braquets. Ensuite, il se lève sur ses pédales et me donne le coup de grâce. Dans les minutes suivantes, je le vois s'éloigner et disparaître. J'arrive finalement en haut, au bout de mes ressources. Qui aperçois-je appuyé sur son vélo au milieu des touristes? Mon petit vieux qui me salue en me narguant de son plus beau sourire. Chaque personne qui a grimpé le Mont Ventoux a une histoire à raconter. C'est pourquoi on y revient toujours, en espérant qu'on n'y rencontrera pas un petit vieux toujours prêt à vous faire la leçon.
Tu mentionnais la déclivité de 9 à 10 %
oui.
Hier, au Tour de France, sur une courte distance, il y a eu une déclivité de 19.
19. Alors, ça, je peux à peine imaginer ça. C'est un mur, ça, qu'on appelle ça.
Oui, c'est ça. C'était ça, le mur.
C'était des extraits de l'article « Ventoux de Gravel » paru dans le Vélomag d'avril 2015. Bon Tour de France.
Vivre avec le clair-obscur islandais, c'est un texte de Monique Durand qui est collaboratrice au Devoir, publié le 4 juillet dernier. C'est le 2e texte de la série d'articles « Éclats de lumière » sur divers états de la lumière, ici et ailleurs dans le monde. Monique Durand s'est rendue en Islande dans le contexte d'un colloque sur les métamorphoses de la noirceur au nord qui s'est tenu en février dernier. Une formidable tempête de vent et de neige nous accueille à Reykjavik. Il fait déjà sombre, même si l'après-midi est à peine entamé. L'ouverture du colloque a lieu le lendemain. 70 universitaires et artistes venus des 4 coins de l'hémisphère septentrional du globe, dont plusieurs du Québec, sont conviés à s'exprimer à l'Université d'Islande sur les métamorphoses de la noirceur au nord. L'Islande, dont le destin s'est forgé dans l'éternelle lumière de ses étés et l'obscurité presque permanente de ses hivers. Perdue dans l'Atlantique Nord, accrochée par les cheveux au cercle polaire arctique, l'Islande, Iceland, porte bien son nom. Contrée de glace, le 10e de sa surface est un glacier, mais aussi de feu. Les Islandais, ils sont 320 000, dont 20 000 concentrés dans la capitale.
200 000.
Oh, pardon, 200 000, merci. Oui, merci de me surveiller. 200 000 concentrés dans la capitale marchent littéralement sur les volcans, souvent encore actifs.
Oui, il y en a un qui a eu une éruption importante, si je ne m'abuse, hein, il y a
oui,
quelques années.
On en a entendu parler, effectivement. Ah, oui. Souvenons-nous de l'Eyjafjöll, ça c'est le nom court,
oui,
la version courte,
oui, oui, c'est ça.
Qui avait recouvert l'Europe de ses cendres en 2010, clouant les avions au sol. Même l'eau qu'ils boivent au robinet goûte les volcans. Terre à nul autre pareil, lunaire littéralement. C'est là que la NASA a choisi d'entraîner ses astronautes. Les arbres ont été fauchés par les premiers habitants il y a 10 siècles et n'ont jamais repoussé. Élaborés par les tempêtes, dans la convulsion toujours menaçante de son sous-sol, et les mystères jamais véritablement expliqués de ces ciels transportés d'émeraudes et de jade, vastes transhumances célestes appelées aurores boréales. Faut-il s'étonner que cet isolat islandais, enveloppé de perpétuels clairs obscurs, sauf en juin et juillet, soit traversé d'histoires fantasmagoriques et de contes morbides et ait donné naissance à une littérature nimbée de mélancolie, où les fantômes, sorciers et trolls, mais aussi les poètes, ont la cote? On en a dit, au début du 20e siècle, « Si vous n'êtes pas un peu poète, vous ne pourrez pas survivre en cet endroit de la Terre. » Faut-il s'étonner aussi que cette contrée étrange ait été peuplée par des Vikings aux rites tout aussi étranges qui brûlaient leurs morts dans des bateaux-tombes en compagnie d'un aimé, bien vivant celui-là? Ces Vikings, grands navigateurs, auraient par ailleurs inventé une pierre de soleil polarisant la lumière pour s'orienter et naviguer la nuit. Île unique qui a forgé un peuple unique et qui y tient, où l'annuaire téléphonique est classé par prénom, où existe un alphabet distinct et une langue distincte que l'on soigne et entretient. Avec les maths, elle compose 35 % du cursus des étudiants. Colonisée par la Suède puis le Danemark, devenue indépendante en 1949, convertie au christianisme en l'an 1000, l'Islande est aujourd'hui un pays parmi les plus éduqués et riches de l'OCDE, avec une espérance de vie record. Elle s'est étonnamment bien tirée de la crise de 2008 qui l'avait pratiquement mise en faillite et devient la coqueluche des touristes. L'Islande, dont le destin s'est forgé dans l'éternelle lumière de ses étés et l'obscurité presque permanente de ses hivers.
Est-ce qu'on mentionne dans l'article des effets physiologiques qui sont dus justement au manque de lumière?
Ah oui, en effet. L'auteur apporte qu'on se sent plus malade la nuit. La douleur inflammatoire est plus importante. On meurt davantage dans la pénombre de l'aube, avance la revue Science et Avenir, en raison d'une protéine dont la sécrétion est liée à l'horloge biologique. Enfin, le travail de nuit est considéré comme une source de pénibilité et fait l'objet dans plusieurs pays d'une législation particulière. Pour nous, humains diurnes qui vivons dans la lumière du jour, la tombée de la nuit apporte étrangeté, même à ce qui nous est le plus familier, dit une spécialiste d'Édimbourg. Plus rien n'est solide, difficile de juger de la distance et de la profondeur. Les détails sont obscurcis, les couleurs altérées. Nous voilà obligés de nous servir d'autres sens pour apprivoiser l'environnement. L'ouïe, l'odorat, le toucher. Les bouddhistes voient dans la noirceur une autre forme de connaissance du monde. Le colloque a pris fin, la tempête aussi. Louer une petite voiture pour aller voir la contrée islandaise au-delà de sa capitale avant qu'il fasse noir. Pas besoin de rouler longtemps pour saisir un peu du mythe de ce pays hors du monde. Jamais vu pareille lumière rose en plein jour et pareille lumière rouge au couchant. Revu en un éclair une inscription sur les chariots à bagages de l'aéroport. Vous êtes ici au plus pur de la terre.
C'est joli.
C'est joli. C'était un texte de Monique Durand, collaboratrice au Devoir, publié le 4 juillet dernier.
Bravo.
Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. All right.
ben oui, vous avez compris que c'était les Beatles, hein? Mm-hmm. Vous l'avez reconnu, j'espère.
Ah, c'est eux.
Sinon, c'est... Here comes the sun. Ouais. Voilà.
Restez dans la lumière.
Vous vous rappelez, j'espère, si vous avez été avec nous, que je vous ai parlé du canal de Panama, qui avait, je vais un petit résumé rapidement, qui avait débuté en 1880 avec Ferdinand de Lesseps. Et qui s'était censé terminer en 1888. Maladie, 25 000 morts, vous vous rappelez, et puis de la fraude et tout ça. Ça a été repris par les Américains et terminé, en fait, 26 ans plus tard, oui. En 1914. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est la reprise d'un chantier historique. C'est Emmanuel Monnier qui nous en parle dans Science et vie. Alors, des portes métalliques colossales. Faites juste imaginer. 10 mètres d'épaisseur, 58 mètres de long, 30 mètres de haut. Ben, c'est la démesure. Ça vous donne une idée de ce qu'on est en train de construire au canal de Panama actuellement. 3000 tonnes. C'est absolument des chiffres extraordinaires. Alors, construite il y a un siècle, les écluses actuelles ont des dimensions quand même plus que respectables, hein? 305 mètres de long, 33 mètres de large. Elle aurait pu accueillir le Titanic. Je parle de la version actuelle.
Oui. Si c'était rendu.
Les plus gros navires qui les empruntent aujourd'hui sont des poids lourds qui transportent jusqu'à 5000 conteneurs. Et ça, c'est la version de Ferdinand de Lesseps, si on veut. Alors, vous avez, par exemple, ils peuvent relier New York à San Francisco en 9500 kilomètres au lieu de 22 500 kilomètres si vous faites la route maritime qui longe toute l'Amérique du Sud et qui contourne le Cap Horn.
Oui, oui, qui n'est pas un cap facile.
Non, pas facile, et puis c'est une économie de temps et d'argent considérable. Hein. Vous savez qu'il y a 12 000 à 14 000 navires qui empruntent chaque année le canal, donc c'est un gain de temps absolument précieux.
Mais 12 000 à 14 000 c'est... en 365 jours, c'est oui, des navires, oui. Ça?
Et combien ça coûte pour un bateau?
C'est quand même des coûts très importants. Un gros navire actuellement, un navire de croisière, disons, 150 000 $ que ça coûte pour la traversée. C'est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et en un siècle, on a fermé ses portes que deux fois. Ça n'a rien à voir avec la guerre. La première en 1915 à cause d'un glissement de terrain. La seconde a été fermée pendant 6 heures seulement en 1989, quand les troupes américaines ont renversé le dictateur Noriega. Alors aujourd'hui, ben, elle est victime de son succès, puis elle accumule les embouteillages. Hein. Il n'est pas rare de voir des navires qui patientent près d'une journée en attendant d'avoir le passage libre. Mmh. Car pour limiter les coûts d'un transport maritime qui s'accroît d'année en année, on le sait, les armateurs affrètent des navires de plus en plus gros, que ce soit pour les conteneurs ou pour les navires de passagers. Alors, de tels mastodontes sont trop imposants pour frayer dans le canal actuel. Mmh. Alors, le risque est grand d'avoir une partie de plus en plus grande du trafic maritime lui échapper au profit de routes concurrentes, qui passe soit par le Cap Horn, parce que ça se fait encore, à la pointe du continent, ou par le canal de Suez, entre l'Asie et l'Europe. Et il y aura d'autres routes dont je vous parlais ultérieurement. Alors, le président du Panama a officiellement proposé en 2006, par référendum, c'est de la mode, les référendums.
Oui, les référendums.
Il a proposé de doubler la capacité. C'est un projet qui a été approuvé par les citoyens.
Okay. OK. Mais maintenant, comment on fait ça, d'élargir un canal?
C'est titanesque. On a ajouté deux voies navigables, une troisième, beaucoup plus large, dotée à chaque extrémité d'écluses monumentales. J'ai mentionné un petit peu au début, là, qu'est-ce que ça voulait dire. Et aussi en agrandissant et en creusant pour faire monter son niveau d'eau, le déjà gigantesque lac artificiel qui est le lac Gatun. Alors, aujourd'hui, les proportions, je vous les épargne parce que c'est considérable. Mais au lieu de 5 000 conteneurs, on peut avoir des navires avec 13 000 à 14 000 conteneurs.
Alors, c'est énorme.
C'est énorme. Officiellement démarré en septembre 2007, le chantier aurait dû s'achever en 2014, juste à temps pour la grande célébration des 100 ans. Mais, on en a parlé pour toutes sortes de constructions actuellement, mm-hmm. Et c'est le cas ici, d'ailleurs. C'est comme bien souvent, sur ces projets pharaoniques, il y a des querelles d'argent qui retardent les travaux. Mais l'inauguration est attendue maintenant en 2016. Et
c'est pas
les
si mal.
Ingénieurs, maintenant, doivent respecter un impératif que n'avaient pas leurs homologues à l'époque, il y a un siècle. Le trafic doit impérativement continuer pendant les travaux et il reste prioritaire, car le canal ne peut se permettre de fermer ne serait-ce qu'un seul jour, parce que ce sont les droits de passage qui financent le chantier actuel, qui est achevé apparemment plus de 75%. Autre obligation, faire vite, car le train presse. Et vous savez pourquoi? Le canal de Suez, qui a déjà agrandi sa voie d'eau en 2010, devrait à nouveau être élargi. Donc, c'est un concurrent important. Mm-hmm. Et le canal est capable d'accueillir les plus gros porte-conteneurs. Ça convient de plus en plus d'armateurs de changer de route moment-là. Les travaux ne sont pas encore achevés que se profile à l'ombre d'un nouveau rival. Je vous en ai parlé rapidement. C'est le président du Nicaragua a confirmé en janvier 2014 le creusement dans son pays d'un nouveau canal interocéanique de 278 kilomètres, mais qui va encore raccourcir la route, si vous avez en tête la carte du monde de Nicaragua.
La compétition est forte.
Donc, vous avez le canal de Suez, le canal du Nicaragua, et pendant ce temps-là, on élargit le canal à des coûts astronomiques. A raison qu'à espérer pour le Panama que cette nouvelle donne ne réduise pas à néant l'intérêt de l'élargissement de son propre canal. Alors, c'était Emmanuel Monnier qui nous parlait de ce projet pharaonique dans Sciences et Vie et Vie hors série, décembre 2014.
Ah, je me réveille à peine. La belle ouvre sa blanche corolle au matin pour nous livrer ses effluves, mais la referme effrontément au beau mi-temps de l'après-midi. Sur les eaux de l'étang ou du lac peu profond, c'est le jardin japonais. Le nymphéa odorant prend ses aises, laissant flotter ses épaisses feuilles rondes et cireuses d'un beau vert profond sur le dessus, pourpre sur le dessous. Les grandes fleurs immaculées, jusqu'à 20 cm, volent carrément la vedette en juillet et en août, en prime, les jeunes pousses et les pétales se laissent déguster.
Oh! Vous savez que les piles solaires, c'est une technologie qui fonctionne, mais il faut les installer quelque part.
Ah oui.
Souvent, on voit ça sur les toits de maison.
Oui, tout à fait.
Il faut les installer quelque part pour que ça fonctionne. Alors, depuis novembre, les cyclistes de la banlieue d'Amsterdam roulent sur la première piste cyclable solaire au monde. Oui, solaire, les cellules photovoltaïques sont incrustées sous des panneaux de verre antidérapants qui sont eux-mêmes intégrés à la structure du béton de la piste située dans la ville de Kromeny. L'infrastructure est conçue pour résister au passage quotidien de milliers de cyclistes et aux intempéries. La technologie s'appelle Solar Road. Elle produit 70 % de l'électricité fournie par des panneaux solaires conventionnels. Le fabricant, qui commercialise des technologies conçues dans des universités néerlandaises, a installé des dizaines de panneaux sur une portion test de 70 mètres qui permettra de produire assez de courant pour fournir 2 à 3 maisons pendant un an. L'étape suivante, convertir le réseau routier qui compte plus de 140 000 km aux Pays-Bas.
Un peu de tourisme. Cuba a accueilli en 2014 un record de 3 millions de touristes. C'est la troisième source de revenus pour l'île des Caraïbes qui espère une amélioration de ses activités économiques avec la détente des relations avec les États-Unis qui ont été annoncées récemment. Bon, on sait qu'il y a eu vraiment un rapprochement, hein, l'ouverture de d'une ambassade américaine à La Havane. Donc, c'est considérable.
Tout à fait.
Et maintenant, les Américains pourront désormais utiliser leur carte de crédit à Cuba. Et les institutions américaines pourront ouvrir des comptes dans les institutions financières cubaines. Assez étonnant quand même. Alors, un dégel total des relations commerciales entre Washington et La Havane pourrait ouvrir entre 5 et 10 milliards de dollars d'investissement pour les entreprises américaines à Cuba. Mm-hmm. Donc, quand on sait que en fait, c'est assez précaire ce qui se passe à Cuba actuellement. Oui. Moi, je dois vous avouer un petit commentaire que je n'y croyais pas vraiment à cette ouverture et je trouve que ça va plus rapidement que prévu. Mm-hmm. Alors, je crois que c'est pour le mieux.
Oui,
et sur cette note touristique, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission. Alors, j'espère que vous avez apprécié nos sujets qui, on essaie à chaque semaine d'être le plus varié possible.
On essaie, on le souhaite.
Alors, on remercie à la technique Mathieu Tessier, qui est toujours présent, qui nous seconde admirablement.
Fidèle
merci,
à chaque semaine.
Mathieu.
Pour les choix musicaux cette semaine, c'était Yvan. Mm-hmm. On a une alternance entre Yvan et aussi
et
Mathieu.
Oui.
Ah, c'était tout à l'heure, c'était Damien Robitaille qui était pour le... Oui, j'ai dit Antoine Gratton, petite erreur, on corrige. Et donnez-nous des commentaires, écrivez-nous, dites-nous ce que vous aimez. Vous avez, canalm.org, c'est simple. Vous avez aussi busezvoix.com et canalm à commercial, busezvoix.com. Donc, toutes sortes de sources pour nous rejoindre
de
et
façon,
nous faire des commentaires. Merci à Marie.
Plaisir. Merci, Michel.
Et à Yvan aussi.
Merci beaucoup.
Alors,
à vous deux.
On vous souhaite une très bonne semaine.
À vous. Bonne semaine.
Bye.
Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 7 juillet. Magnifique journée d'été.
Oui.
Oui.
Enfin.
Alors, vous êtes en compagnie de votre trio du mardi. Le trio du mardi, en compagnie de Marie.
Bonjour.
Lalande et de Yvan Deslauriers.
Un beau bonjour.
Et on vous parle toujours, constamment, de voyage, de nature, de science, avec des sujets de tous ordres. On apprend beaucoup nous-mêmes, hein?
Tout à fait.
Oui, effectivement.
Ah oui, bien sûr. Alors, Marie, aujourd'hui?
Alors, moi, je vais vous parler de goélands à bec cerclé.
Oh!
Et de la cohabitation dans les milieux urbains avec eux. Et dans la deuxième partie de l'émission, je vais vous parler de l'Islande.
Oui.
Ça, c'est pas proche.
Non, c'est loin, ça.
Oui.
Ça fait drôle comme nom en anglais, Iceland.
Iceland.
Ça a plus de consonance en anglais, terre de glace.
Plus évocateur.
Terre de glace. Yvan, de
moi,
ton
de
côté?
Mon côté, aujourd'hui, je suis. Mes deux sujets sont avec des roues. Vous allez être très surpris. D'abord, je vous amène à Las Vegas, mais en chaise roulante. Et après ça, l'autre article, c'est un peu plus compliqué. C'est à vélo, mais c'est sur le Mont Ventoux.
Oh!
Avec quelqu'un que vous connaissez, mais je ne dis pas tout de suite.
Donc, c'est le temps du Mont Ventoux, là, avec
le Tour de France.
C'est ça qui vient de commencer.
Exactement.
Pour les amateurs.
Alors, toi, Michel, qu'est-ce que tu nous dis?
De mon côté, je vais vous amener à une ville assez particulière. Vous connaissez le nom, vous connaissez probablement pas la ville. Ça s'appelle Toyota City. Et ça existe vraiment.
Ça aussi, c'est avec des roues.
Oui, c'est le thème aujourd'hui. La semaine passée, c'est la lumière. Aujourd'hui, on parle de roues. Et aussi, je vous ai parlé la semaine passée du canal de Panama.
Oui.
Maintenant, vous le savez ou vous ne savez pas qu'on est en reconstruire le canal de Panama. Pour toutes sortes de raisons dont je vous parlerai plus abondamment.
Okay.
Alors, restez avec nous, vous allez apprendre plein de choses.
Plein de choses.
Hein?
Ça va rouler.
Ah oui.
Alors, je vais vous lire. Je vous amène à Las Vegas. Je vous lis des extraits d'un récit qui a été écrit par Isabelle Ducharme dans le magazine Kéroul d'hiver 2014. Le magazine Kéroul, l'organisme Kéroul, c'est un organisme qui s'occupe de tourisme et culture pour les personnes à capacité restreinte. Et Mme Ducharme est une personne qui nous raconte son voyage. Alors, je vais être Mme Ducharme pendant le temps de cette lecture-là. Longtemps connue comme une ville de jeux, Las Vegas est devenue une ville de divertissement varié. Bonheur pour les personnes avec des limitations fonctionnelles. L'accessibilité est au cœur des développements de cette ville. Il y a un souci d'inclusion dans tous les aspects touristiques, de l'hébergement à la restauration, en passant par le divertissement. Je n'en suis pas à ma première visite. Et puis là, j'ai perdu mon texte, mes amis.
Attends, on va te le remettre. Oui. Voilà.
Ah, les beautés du iPad, d'Internet, hein, voilà.
Alors, je ne suis pas à ma première visite et l'une des raisons est la facilité d'accès. Le site Internet de son bureau touristique a une section réservée à l'information sur l'accessibilité, mais je vous avoue que l'information est plutôt générale et manque de détails. Lorsqu'on mentionne Las Vegas, les deux premières connotations qui s'imposent sont « la ville du péché » et « ce qui arrive à Vegas reste à Vegas
».
Mes visites du Strip, c'est pas moi, là, hein, c'est
Madame Charles. Oui,
sont tout autres. Je pars de la rue principale car je n'ai jamais visité le reste de la ville. La rue principale est un divertissement en soi et un endroit où l'on se sent en sécurité. Ma plus récente visite était pour le 70e anniversaire de ma mère. Elle aime autant Las Vegas que moi et ma tante qui nous accompagnaient. On y oublie les incertitudes climatiques du Québec pour vivre une chaleur intense mais sèche, prévisible une semaine à l'avance. La canicule se vit donc bien et les rhumatismes et les spasmes se font moins sentir. La ville étant située au cœur du désert, dans le Nevada.
Ah oui, tout à fait, il ne faut pas l'oublier. Hein?
Selon vos besoins et votre degré de confort à rester longtemps dans une même position, vous pouvez maintenant choisir un vol direct ou avec escale. Personnellement, je préfère les vols directs pour éviter les multiples transferts de chaise à chaise. Pour le déplacement de l'aéroport à l'hôtel, on peut ne pas réserver d'avance puisque, de façon générale, ce n'est pas tellement long pour obtenir un taxi adapté ou une place sur une navette adaptée qui nous amène dans les grands hôtels. Si vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez également réserver à l'avance votre transport.
Et une fois sur place, est-ce qu'une personne en fauteuil roulant peut se débrouiller facilement?
Bien oui. La marche, ou la roulade dans ce cas-ci, est souvent la façon la plus efficace de se promener, la circulation étant toujours dense sur la rue principale. Il faut tenir compte du fait que tout est grand à Las Vegas, incluant les espaces entre les hôtels et à l'intérieur. Si vous êtes facilement fatigué par les longs déplacements, les autobus de la ville ont des planchers abaissés. Certains hôtels de la ville utilisent même un système de monorail pour les déplacements et ce système est complètement accessible. Vous trouverez des systèmes de passerelles élevées pour traverser les rues et sous les escaliers mobiles, vous trouverez les ascenseurs, parfois un peu cachés, mais toujours très pratiques. Le choix d'hébergements sont variés en prix, en qualité et en service, et ce, dans un petit périmètre. Il y a même en périphérie de nombreuses offres de condos et villas adaptées à louer. Pour ce voyage, mon choix s'est arrêté sur l'hôtel Bellagio. Oui. Un des hôtels de luxe situés au milieu de la rue principale. Le Cirque du Soleil y produit son spectacle haut. On s'y vante également d'avoir la plus grande fontaine de chocolat au monde. C'est vrai, on
c'est
est
vrai.
L'accessibilité y est remarquable. Le service est personnalisé et répond rapidement aux demandes spéciales d'accommodement lorsque possible. Il y a plusieurs chambres adaptées situées aux différents niveaux, mais le plus important pour moi, ce sont les deux chambres avec lève-personne au plafond. Il s'agit d'un des rares endroits où j'ai vu un lève-personne au plafond au-dessus du lit, mais également dans la salle de bain pour se rendre dans la baignoire.
C'est exceptionnel, ça.
Oui, c'est vraiment frappant. Vous pouvez vous divertir sans dépenser un sou en vous promenant sur la rue principale. La majorité des grands hôtels sont une attraction en soi. Le Bellagio présente aux 15 minutes des spectacles de chute d'eau qui s'animent au rythme de la musique, autant le jour que le soir, aussi un magnifique jardin intérieur. Le Venetian peut se visiter en gondole ou encore le nouveau Cosmopolitan qui présente une exposition d'objets ayant appartenu à Liberace, pour n'en nommer que quelques-uns.
J'imagine que les salles de spectacle sont aussi adaptées?
Bien oui, tout à fait. Pour ce voyage-ci, alors que ma mère et ma tante assistaient au spectacle de Céline Dion, je suis allé voir Zarkana du Cirque du Soleil avec une amie. J'ai découvert que les kiosques de vente de billets à rabais pour spectacle, contrairement à d'autres destinations, offrent le même service pour les sièges réservés pour personnes à fauteuil roulant. Le procédé est simple et efficace et j'ai même eu droit sur place à un surclassement. Là, je ne savais pas qu'il y avait un surclassement dans des salles de spectacle.
Non, c'est étonnant, hein?
Il y a beaucoup d'autres activités à faire à des coûts variés. On peut se faire dorloter dans des spas, tenter sa chance dans les casinos. Le plus récent quartier de divertissement s'appelle The Link, L-I-N-Q, offre la possibilité de monter à bord d'une grande roue de 550 pieds de haut et contenant 28 habitacles vitrés, le High Roller, évidemment un nom prédestiné. La roue tourne continuellement mais tranquillement et vous offre une vue imprenable sur l'ensemble de la ville, jour et nuit. Malgré mon fauteuil motorisé, j'ai pu m'y installer et me promener d'une fenêtre à l'autre sans trop de difficultés. Du côté gastronomique, plusieurs choix se présentent. Cette fois-ci, j'ai découvert un petit bijou à l'intérieur de l'hôtel Bellagio même. Le chef nous offre une expérience gastronomique qui met en valeur nos cinq sens au restaurant Sensi. Personnellement, je vous suggère fortement d'y retourner en soirée pour profiter du plateau multi-étage de dessert. Et il y a aussi le Grand Canyon, le Hoover Dam qu'on peut visiter. Et il y a la possibilité de louer un véhicule incluant une fourgonnette avec rampe d'accès. Alors, c'était des extraits de l'article Las Vegas, écrit par Isabelle Ducharme dans le magazine Kéroul d'hiver 2014.
Alors, Goéland a bec cerclé en milieu urbain une cohabitation problématique. C'est un reportage d'Elisabeth Caron, publié dans la revue Québec Oiseau, été 2015. En 2009, une équipe de chercheurs de l'Université du Québec à Montréal, menée par Jean-François Giroux, professeur titulaire au département des sciences biologiques, entreprend une étude sur le comportement du goéland à bec cerclé en milieu urbain et périurbain. L'objectif est d'étudier de près le comportement de ces oiseaux en ce qui concerne leur alimentation, leur reproduction et les pratiques en place pour tenter de contrôler la situation. Alors, quel genre de problème, ça vous intéresse, hein, de savoir quel
oui,
genre de problème
fait.
Cette cohabitation occasionne?
J'allais poser la question,
c'est ça, hein? Les problèmes engendrés par la présence des goélands sont multiples. En plus de la compétition pour les sites de nidification avec d'autres espèces, la présence de fientes et la contamination bactériologique entraînent des problèmes de pollution, sans compter les dangers de collision aux abords des aéroports. En outre, il y a cet inlassable combat quotidien pour chasser les goélands des lieux d'enfouissement. Plusieurs personnes y travaillent tous les jours en employant un savant mélange de techniques, dont la fauconnerie et la pyrotechnie.
Mm-hmm.
Afin d'augmenter l'efficacité des prédateurs, on parle des faucons ou de buses, les techniciens utilisent des cris de détresse de goélands qui attirent et concentrent les oiseaux pour ensuite lancer les rapaces à leurs trousses. Les détonations de canons et de pièces pyrotechniques suivent alors dans un véritable programme intégré. Alors, c'est ce qu'on identifie comme la technique d'effarouchement.
Okay.
La fauconnerie demeure la méthode la plus efficace, tant dans les dépotoirs que le long des pistes d'atterrissage. On parle d'une population en déclin, puisque au départ, deux îles du Saint-Laurent devaient faire partie de la zone de recherche de l'équipe. L'île des Lauriers, au nord de Varennes, et l'île de la Couvée, face à Brossard. Environ 10 000 couples habitaient cette dernière en se ravitaillant à l'ancienne carrière Miron, qui avait été transformée en dépotoir. Avec la fin de l'enfouissement de la carrière Miron, les oiseaux ont quitté, si bien que les chercheurs n'ont eu d'autre choix que de se rabattre sur un seul site, l'île des Lauriers. Tous les trois ans, le Service canadien de la faune réalise un inventaire des colonies de goélands à bec cerclé. Après une augmentation exponentielle dans les années 80-90, la population du sud du Québec s'est stabilisée, puis a commencé à décliner à partir des années 2000. Il est cependant difficile d'attribuer cette tendance à des facteurs précis. Les colonies se déplacent au rythme de l'effarouchement et de la disponibilité de la nourriture. Ainsi, la recrudescence des efforts d'effarouchement au dépotoir de Lachenay, situé à environ 7 km de la colonie de l'île des Lauriers, a coïncidé avec la chute du nombre d'oiseaux à ce site d'enfouissement. Ces pratiques ont si bien fonctionné que le site n'est pratiquement plus visité par les goélands. Les chercheurs ont aussi observé à l'île une baisse du nombre de jeunes produits par couple, comparativement à la période de croissance exponentielle. Précédemment, des trois œufs pondus par les goélands à bec cerclé, deux jeunes réussissaient généralement à prendre leur envol. Maintenant, chaque couple n'engendre plus qu'un seul jeune en moyenne.
Oh.
Et les chercheurs attribuent cette baisse à une réduction de la disponibilité de la nourriture dans les sites d'enfouissement situés près de la colonie. Les parents à la recherche de nourriture ont plus de distance à parcourir et dépensent donc plus d'énergie, ce qui peut se traduire par la perte d'un ou deux rejetons.
Okay.
Mais la disparition d'un site de nidification ne signifie pas nécessairement que les oiseaux eux-mêmes ont disparu. Les oiseaux déplacés en raison des efforts d'effarouchement, de la perte d'une source importante de nourriture ou de celle d'un site de nidification doivent élire domicile ailleurs.
Alors, ils vont où ailleurs? Puis à un moment donné, est-ce qu'ils reviennent dans leurs anciennes pénates?
Ah, c'est intéressant. Même si l'espèce est fidèle à ses sites de nidification, le chercheur souligne que son retour après quelques années d'absence devient peu probable.
Okay.
Engraissée par les fientes de tous ses locataires ailés, la végétation recolonise rapidement les lieux. Encombré d'arbustes, le site n'offre alors plus les caractéristiques idéales pour y élever les petits. La tendance des dernières années pour les colonies de la grande région de Montréal est de choisir l'ouest de l'île et les toits plats des agglomérations industrielles comme nouvelles terres d'accueil. Les conséquences sont encore plus inquiétantes et portent maintenant atteinte à la santé publique. Sur les toits plats, les goélands à bec cerclé construisent souvent leur nid à proximité des prises d'air, édifices et une bonne quantité des jeunes tombent des toits. Le bruit pose également des problèmes pour les résidents à proximité. En effet, comme l'espèce niche en colonie serrée, environ 1000 couples peuvent nidifier sur un seul toit, ce qui peut représenter jusqu'à 5000 individus, dont 3000 jeunes affamés. La guerre est donc repartie de plus belle. Cette fois, les mêmes tactiques ne peuvent être employées. Les canons et les faucons sont laissés de côté. Certains propriétaires ont recours à des fils tendus au-dessus du toit afin de gêner le vol. Ailleurs, la destruction des nids s'avère le choix le plus populaire. Mais attention, seuls les œufs peuvent être détruits et non les petits déjà éclos. C'est ça. Alors, si les goélands à bec cerclé délaissent les sites d'enfouissement, ils se tourneront sans doute vers les nouveaux sites de transbordement et de gestion des déchets ou encore vers les usines de biométhanisation prévues pour les prochaines années. Alors, c'était un reportage d'Élisabeth Caron publié dans la revue Québec Oiseau, édition de l'été 2015.
Si j'avais un char, ça changerait ma vie. We'll be right back.
Eh oui, si j'avais un char. Hein? c'est Antoine Graton qui chantait, mais vous connaissez probablement la version de Steve Faulkner, oui. Qui est de la chanson de lui. D'ailleurs, ce qui nous amène...
Quelle sorte de char?
À Toyota City. Toyota City retrouve le moral. C'est Anne Bede qui nous transmet ce message dans la presse du 16 mai. Ça vient de l'agence France Presse. Toyota City, actuellement, se frotte les mains parce que son fleuron homonyme de l'automobile a des bénéfices records actuellement. Et c'est un soulagement pour cette ancienne ville du textile après des années difficiles. L'agglomération de 422 000 habitants est située dans la région de Nagoya. C'est au centre du Japon, Nagoya. Et c'était autrefois une petite bourgade rurale qui était nommée Koromo.
Koromo.
Très japonais, hein? Koromo.
OK.
Alors, on est presque certain d'avoir l'accent correct en disant
oui,
ça.
Oui, oui, oui.
Bien, le secteur commence à péricliter à la fin de la Première Guerre mondiale, qui a été secoué par un grand tremblement de terre en 1923. 140 000 morts. C'est considérable, hein?
Mon Dieu, à cette époque-là.
Oui, bien, la Grande Dépression de 1929 aussi qui les a affectés. En 1933, alors que le Japon met l'accent sur l'industrie nationale pour contrer les effets de la crise et fortifier la patrie impérialiste, Kichiro Toyoda décide de se lancer dans la construction d'automobiles avec la même fibre pionnière que son père, qui était l'inventeur du premier métier à tisser automatique.
Ah bon?
À ce moment-là, il cherche... On est loin. Hein?
Oui, il y a toute une différence.
Oui, c'est ça. Il cherche un terrain pour bâtir une grande usine. Il y a plusieurs villes de la région qui manifestent leur intérêt, mais Koromo remporte la mise. Ses atouts, il y a un terrain abordable, la présence d'une ligne de chemin de fer à proximité, un aérodrome aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le groupe nourrissait des ambitions dans l'aviation à l'époque.
Oui,
mais il y a aussi l'enthousiasme du maire, qui joue beaucoup dans ses choix. Hein. Et confronté à les réticences des propriétaires terriens, l'élu, Toyoda, ne ménage pas ses efforts pour éviter que les négociations achoppent. À l'époque, personne ne croyait vraiment en l'industrie automobile.
OK.
Il n'y a pas l'année, hein, à ce moment-là.
C'est une industrie un peu naissante aussi.
Ben, oui. C'est ainsi que naquit le 28 août 1937. Toyota Jidosha. C'est en fait industrie automobile Toyota en japonais. Et aujourd'hui, c'est le numéro un mondial du secteur et c'est sur les terres de Koromo. L'usine ouvrit ses portes en 1938 pour accueillir 5000 ouvriers. Ce qui était déjà considérable à l'époque, hein, quand
même. J'imagine qu'aujourd'hui, ça doit avoir changé pas mal.
Mais maintenant, le groupe compte 7 usines de production à Toyota City et 3 autres dans les environs sur un total de 12 usines au Japon. Oui. Et ce sont près de 70 000 personnes qui travaillent pour Toyota dans cette zone. Et c'est ordinairement de père en fils, hein, parce que c'est quand même particulièrement intéressant comme emploi. Et l'appellation de... l'abandon, plutôt, de l'appellation Koromo, vous appelez du nom de la ville au début, en 1959, au profit de Toyota-chi. C'est Toyota City, en fait.
Okay.
C'est une idée qui a fait un débat à l'époque. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est largement accepté. Bien sûr, la plupart des gens travaillent à cet endroit dans des usines, donc c'est accepté. Alors, c'est vrai que c'est la cité de la voiture.
Est-ce qu'il y a d'autres industries?
Oui, et il n'y a pas que l'automobile. 70 % de la commune est couverte de forêts, étonnamment. Et ce sont les premiers producteurs de riz de cette région. Et on cultive aussi du raisin et des poires. Alors, Toyota City a plusieurs visages qui sont masqués par, évidemment, l'industrie de l'automobile, qui est extraordinaire. Alors, en dépit des efforts de diversification, l'économie locale reste dépendante de Toyota, la voiture. À la tête d'un cortège de fournisseurs, la société est devenue, par ses nombreuses filiales, un empire au cours de la seconde moitié du 20e siècle. Propriétaires fonciers, ils sont présents aussi dans l'immobilier, dans le tourisme, l'assurance ou même, étonnamment, la gestion de crèches.
De crèche.
Ben, je ne sais pas d'où ça vient exactement. On ne m'en parle pas ici.
Crèche donc. Comme orphelinat?
Ou... Oui, il semblerait, oui. Okay. Ah, évidemment, c'est que quand Toyota tousse, toute la ville s'enrhume. Ah, c'est un dicton qui est particulièrement vrai pendant la crise de 2008-2009 qui a suivi la douloureuse affaire des rappels aux États-Unis. Oui. Il y en a d'autres rappels actuellement, hein, pour Toyota, des coussins gonflables particulièrement. Alors, le constructeur a dû se séparer de milliers d'employés à ce moment-là, dont de nombreux immigrés brésiliens, de racines japonaises, ainsi que les recettes fiscales de Toyota provenant des sociétés qui ont évidemment plongé à ce moment-là. Alors, outre cet impact direct, l'atmosphère était morose, déprimante dans la région. Ben oui, presque tout le monde travaille pour la compagnie Toyota. Aujourd'hui, Toyota affiche des profits historiques. Et la ville, dont plusieurs n'étaient quand même pas comparables à Détroit, vous savez ce qui s'est passé à Détroit, hein?
Oui,
ville fantôme.
Oui.
C'est un joyau déchu de l'industrie automobile. Donc, la Toyota City a retrouvé, ou Toyota l'automobile, a retrouvé optimisme et couleur avec de nouveaux projets municipaux qui sont parrainés par qui? Ben, par Toyota, évidemment. Alors, Toyota City, ben, retrouve le moral. C'est par Anne Bede dans la presse du 16 mai.
Alors, un python de Séba est mort dans un parc naturel sud-africain après avoir avalé un porc-épic.
C'est pas une bonne idée.
De 13,9 kilos,
oh,
a indiqué la direction du parc. L'incident est rare car ce type de python peut généralement digérer sans problème un porc-épic de ce poids, malgré les épines acérées du gros rongeur. Le serpent, qui mesurait près de 4 mètres, a probablement été stressé par les visiteurs du parc qui venaient observer sa digestion. On pense qu'avec autant de gens autour de lui, il s'est stressé. Et quand un serpent est stressé, qu'est-ce qu'il fait? Il régurgite et abandonne sa proie pour pouvoir fuir.
Oh, petit problème.
En l'occurrence, des épines se sont coincées dans son tube digestif alors qu'il tentait de régurgiter, provoquant sa mort. On rit, mais c'est pas drôle. 6 jours après avoir avalé le porc-épic, les pitons de Séba sont les plus grands serpents d'Afrique et peuvent avaler des proies beaucoup plus impressionnantes qu'un porc-épic, comme des antilopes.
Ah oui, il y avait les yeux plus grands que la panse.
Tout à fait.
Ah, oui.
Mais les antilopes, ils n'ont pas de pic, eux autres.
Non.
Alors, je vous parlais de voitures. La nouvelle voiture autonome de Google prendra la route dès cet été en Californie.
Une voiture de Google?
Oui, oui, tout à fait. Alors, ça fait longtemps qu'ils sont sur le projet, hein, pour la voiture autonome, mais très longtemps. Mais il s'agit d'un petit module à deux places qui, théoriquement, n'a pas besoin d'accélérateur ou d'un volant. On est rendu loin, hein? Google a fait table rase pour concevoir un prototype de voiture autonome au lieu d'essayer de rendre autonome une voiture qui existait déjà. Donc, ils ont complètement repensé, c'est ça. Et le produit final va ressembler à une Smart, en fait. Il peut avancer, freiner, identifier les dangers sans intervention humaine, absolument. Et le but ultime, ben, c'est une voiture contrôlée par ordinateur qui va éliminer l'erreur humaine. N'oubliez pas un facteur qui est en cause dans 90 % des 1,2 million de vies qui sont perdues chaque année sur les routes dans le monde, hein. Donc, la voiture autonome est en route, c'est le cas de dire.
Oui,
hein?
Oui, hein?
Bien sûr, oui.
Alors, rechargez votre iPhone en roulant. C'est un des projets populaires sur la plateforme de sociofinancement Kickstarter. Il a même dépassé son objectif de 300. Le bidule AMPY porté à la taille ou sur le mollet rechargera votre téléphone intelligent, votre montre ou votre enregistreur de performance. Les promoteurs disent que marcher 10 000 pas, rouler une heure à vélo ou courir 30 minutes ajoutera une charge de 3 heures à votre téléphone. Ça vous prend juste des connecteurs appropriés et les inventeurs, 3 étudiants de l'Université Northwestern, proposent de précommander leur invention, c'est plus petit qu'un iPod Nano, sur leur site Internet.
C'est bon.
Ah, restez avec nous, hein. On a encore plein de choses à vous dire.